Salut à toutes, salut à tous, c'est Yann. Je prends quelques instants avant le générique pour vous dire deux petites choses. Premièrement, vous avez bien remarqué, l'épisode sort une semaine après la date prévue. On a décidé de prendre un petit peu de repos pour respirer. Et deuxièmement, eh bien, l'épisode ne contient pas le dossier, c'est une sorte de best-of de l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière, donc avec l'actualité et le courrier. Alors, vous n'avez jamais entendu cette actualité et ce courrier, mais on a décidé d'intégrer uniquement ça dans l'émission après avoir bien réfléchi et après avoir été, faut l'admettre, un petit peu insatisfait par ce qu'on avait fait pour le dossier. On a la liberté dans Tech2 et sur Blueprint en général de faire ce qu'on veut. Là, voilà, on n'était pas hyper content du dossier, donc qu'est-ce qu'on fait ? On le publie pas et on vous met uniquement le meilleur de l'émission. Et c'est promis, on revient dans deux semaines avec un épisode complet. Et évidemment, tous les suivants le seront aussi. Merci pour votre compréhension. Bon générique et bon épisode.
La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Blueprint.
Et l'actualité, vous l'avez vu un peu passer un peu partout. Apple a présenté son nouvel iPhone 12. Et toi, Yann, tu es bien saucé.
Alors, son nouvel iPhone 12, tu es un petit peu modeste, Franck, puisque on pourrait plutôt dire ses iPhone 12. On parle de quatre modèles différents. Les deux premiers sont sortis au moment où on se parle, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Et pour les tailles aux deux extrémités, c'est-à-dire le 12 Pro Max plus puissant avec de meilleures caméras et surtout plus grand, et l'iPhone 12 mini, plus petit que l'iPhone SE actuellement en vente, donc le plus petit iPhone 9 qu'on peut se procurer aujourd'hui, eux, ce sera plus tard, ce sera pour le mois de novembre. Et je dois dire, tu as bien formulé les choses, Franck, que je suis saucé, que je suis hypé, que je suis intéressé par l'iPhone 12 mini. Alors vous allez me dire, tu vas me dire, Franck, Yann, tu as un iPhone XR, est-ce qu'il fonctionne bien ? Et ma réponse est oui, il fonctionne bien, et je ne compte pas m'en séparer dans l'immédiat, évidemment, mais je dois admettre que l'iPhone 12 mini est attirant. Alors, un premier point qui est complètement dû à, comment dire, le fait que je sois assez réfractaire au fait de mettre à jour mon téléphone, c'est que j'ai pas mal envie d'iOS 14, j'ai pas mal envie des widgets notamment, et des différentes façons qu'on peut maintenant personnaliser son écran d'accueil sur iOS. Notamment en faisant disparaître certaines icônes, même certaines pages entières d'icônes sur l'écran d'accueil, mettre à disposition à la fois des raccourcis vers ces applications et en même temps des widgets directement sur cet écran-là, en petit ou en grand format. Tout ça, ça m'intéresse. Il y a de plus en plus d'applications que j'utilise qui adoptent ça. Donc, je ronge un peu mon frein. J'ai vraiment envie de pouvoir utiliser ça. Je sais que je pourrais le mettre à jour, mon 10R, et profiter de tout ça, mais j'ai pas envie d'avoir à faire face à la nécessaire baisse de performance, que ce soit côté batterie ou que ce soit côté puissance brute, qui viendra nécessairement donc avec une mise à jour de ce genre. Quand bien même elle serait négligeable, c'est quelque chose. Enfin, j'ai été suffisamment brûlé par ce genre de mise à jour par le passé pour avoir envie de le faire tout court. Ensuite, parce que le 12 mini, je trouve quand même que le format est sympa. C'est un téléphone, je l'ai dit tout à l'heure, assez petit, le plus petit téléphone qu'Apple vend aujourd'hui en off. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Franck, de ce format ?
Alors déjà, pour commencer, Yann, je suis quand même relativement. Enfin, moi, j'ai mis à jour mon iPhone, donc on a grosso modo
le même. On a littéralement le même.
Ah, on a littéralement le même, sauf que le mien est en japonais, n'est-ce pas ? Il est né au Japon, Domo. Mm-hmm. J'ai fait toutes les mises à jour. Ouais. Parce que j'avais envie, justement, c'est mon premier iPhone.
J'avais de profiter envie de pouvoir faire les mises à jour.
Ouais, carrément. Et puis de voir les évolutions de l'OS sur 2-3 ans. Là, ça fait un an et demi que je l'ai, tu vois. Je suis passé assez vite à iOS 13, quand la 13.2 est sortie, je crois. Et j'ai suivi les mises à jour d'iOS 13. J'étais sur la 14.01 depuis déjà la dernière émission.
Nice.
Donc, j'avais testé la 14.01. Je me suis dit, allez, YOLO, elle est disponible. Donc, on peut la faire.
Ouais.
Je l'ai faite. Là, je suis passé en 14.1 il n'y a pas longtemps. Et honnêtement, j'aime bien les widgets. Je regrette un peu le format de certains widgets que j'aurais aimé un peu plus grand par moment, ou un peu plus petit même un peu plus fin par moment, parce que c'est des blocs de deux étages, voire plus.
Ce que je trouve gênant, c'est le manque d'interactivité là-dedans. Enfin, c'est intéressant ce qui est affiché et ce qui peut être fait avec, mais le fait qu'il puisse plus être interactif comme les anciens widgets, ça, je trouve ça dommage.
C'est ça. Et pour avoir eu des téléphones Android avec des widgets un peu plus interactifs, c'est quelque chose qui me surprend toujours un petit peu. Après, c'est pas un immense problème. J'ai pas senti de baisse de perf au niveau de la consommation déjà, parce que c'est déjà une bonne batterie sur le XR, c'est pas mal. J'ai pas senti de baisse de perf au global sur les applications que j'utilise. Donc j'ai pas vraiment eu de problème avec les dernières mises à jour d'iOS pour mon téléphone. Mais ce 12 là, c'est un peu le vrai SE qu'on attendait depuis très longtemps.
Oui, alors en parenthèse, juste en termes de taille, représente-toi si tu as ton 10R dans la main ou à côté de toi sur ton bureau. Donc le 10R en termes de dimension, c'est 15 cm de hauteur pour 7 cm de largeur. Là, le 12 mini, c'est 13 cm de hauteur, donc 2 de moins. Tu peux te représenter 2 cm de moins pour 6 cm et demi de largeur, soit là 1 de moins.
Oui, c'est ça. Et c'est un téléphone, j'ai beaucoup d'amis qui aiment le SE, notamment notre compagnon Thomasaurus. Et quand il a vu, quand je lui ai dit, mec, 12 mini, regarde la taille, il est petit, toi qui aimes, il n'aime que les petits téléphones.
Ah ouais.
Il a son ancien SE, il n'a pas voulu changer pour le SE précédent qui était avec le corps de l'iPhone 8, qui était trop grand à son goût. Et là, on est sur quelque chose de bien, qui lui plaît, entre guillemets.
Et en parenthèse, le SE qui est sorti en début d'année, il a certes le châssis de l'iPhone 6, 7, 8, mais il a les composants de l'iPhone 11.
Oui.
Et ça, c'est important parce que c'est un téléphone assez puissant, pour le coup. Le 12 mini aussi, le problème, c'est qu'il y a plusieurs centaines d'euros qui les séparent, évidemment.
Oui, tu vas en parler justement parce qu'il est relativement cher ce mini.
Il est relativement cher. Alors tu vois, enfin, mon optique en fait pour le dire en quelques mots rapidement sur le 12 mini, c'est pas pour maintenant, mais c'est peut-être pour début ou mi 2021 suivant ce qui va se passer avec évidemment je revendrai le 10R au meilleur prix. Mais voilà, c'est ce que j'ai en tête. À ce stade, ça m'intéresse. En termes de stockage, je trouve dommage qu'il commence la gamme des donc 12 mini et 12 à 64 Go. À mon sens, ça vaut le coup de booster ça à 128. Donc pour moi, ce sera en plus un peu plus cher à cause de ça. Mais je trouve ça vraiment chouette. Le retour de la marque MagSafe avec ce chargeur sans fil qui se centre avec des aimants, je trouve que c'est extrêmement malin parce qu'en fait c'est la même technologie que celle de l'Apple Watch, mais en plus grand. Et ça me fait de l'œil également. Donc franchement, je trouve que ce téléphone-là correspond pas mal à l'usage que je veux avoir pour un téléphone aujourd'hui. Mon 10R, non, il a 2 ans. Et il y a 2 ans, j'avais pas les mêmes besoins qu'aujourd'hui. Alors évidemment, la pandémie est passée par là, on sort pas autant, donc avoir un grand téléphone, c'est plus la même chose, c'est plus le même impératif. Mais même après avoir passé 2 ans avec un téléphone de cette taille-là, c'est vrai que pour avoir vu dans la nature des SE de première génération qui sont tout petits, ou même simplement mon ancien iPhone 7, c'est vrai que je suis un peu nostalgique pour ces plus petits formats. Et de voir qu'ils sont remis là, ça me donne espoir, disons, que le marché en général, et pas qu'Apple d'ailleurs, commence à produire de nouveaux petits téléphones. Parce que je pense qu'offrir plus de choix est toujours quelque chose de positif, notamment en ce qui concerne la taille des écrans et la taille des appareils, où finalement, c'est là que ça se joue. Je veux dire, on va de plus en plus sur la convergence des OS, on va à la fin de l'année avoir une version de macOS qui va pouvoir faire tourner les applications iPhone et iPad, par exemple. Toutes les applications iPhone peuvent tourner sur iPad, à l'exception genre de WhatsApp et d'une ou deux autres, mais globalement, elles sont venues, elles sont toutes là. Alors parfois, elles ne sont pas adaptées, mais au moins, elles tournent. Et ça permet vraiment de pouvoir, comment dire, pas forcément tout faire dans toutes les situations avec tous les appareils, mais d'avoir un certain degré d'équilibre entre le petit écran que j'ai dans la poche pour faire une réponse rapide à un email, le laptop où je vais pouvoir être beaucoup plus, où je vais pouvoir beaucoup plus développer par exemple ce que je veux écrire, et puis l'ordinateur de bureau où je vais pouvoir faire mon podcast, écrire du hyper long form en étant ergonomiquement au mieux, etc., etc. Donc c'est vraiment cet équilibre là entre les différentes tailles d'écran qui est intéressante à mon avis, et c'est justement là où un petit téléphone s'insère bien. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Toi, si tu devais upgrader, est-ce que tu irais dans le sens du mini ou est-ce que tu irais dans un autre sens?
Alors le mini m'intéresse. Si tu te rappelles quand on a fait l'épisode Franck et son iPhone,
oui.
j'avais été surpris parce que je t'avais dit le XR est grand.
Oui,
mais
il est
genre,
grand.
Voilà, il est grand. Au final, j'aime beaucoup l'écran. Vraiment, parce que je mate des trucs dessus, je lis un peu dessus, je fais quelques bricoles dessus. J'ai mon iPad depuis, que j'utilise pour d'autres usages, puisque j'ai le téléphone avec certaines applis de boulot, pas toutes, notamment, je ne les mets pas toutes, on en avait parlé déjà plusieurs fois, mais et l'iPad, c'est vraiment une bulle décentralisée du travail et des communications générales liées au boulot. Donc, c'est beaucoup pour de la lecture, ce genre de choses.
C'est un bel écran bien zen.
C'est un bel écran bien zen, mais j'avoue, je suis très partagé. Je dois t'avouer un truc, je suis très partagé, parce que le 12 mini me plaît beaucoup, mais le 12 Pro Max, sa mère.
Oui, alors il est encore plus grand pour le coup que le 17.
C'est pas tant la taille qui va me gêner.
Caméras.
Les fonctionnalités, le juste pour aller tripatouiller et voir un peu ce que peut donner de la vidéo. De la captation, de la photo avec ça, parce que les nouvelles versions d'applications photo pour le 12 Pro Max, j'ai trouvé ça assez violent. J'ai trouvé ça très violent. Évidemment, c'est pour du content creator.
C'est clairement là-dessus, entre parenthèses, qu'ils échelonnent la gamme. Il y a des choses que le Pro Max a que le Pro n'a pas, par exemple.
C'est, le Pro Max, pour revenir à mon univers du hardware, c'est la Titan RTX, c'est une 3090. Enfin,
c'est comme ça qu'ils le positionnent, bien sûr.
Ce sont des téléphones qui ne sont pas faits, sans être méchant, pour le commun des mortels. C'est vrai, vu le prix déjà, je comprends que les gens aiment les beaux téléphones et le haut de gamme et tout. Mais à un moment, il faut rester un minimum pragmatique. Et relativiser les choses. C'est pas un téléphone dont 90% des gens qui ont des iPhones ou qui aiment des iPhones vont avoir l'utilité. Notamment sur le côté photo-vidéo. Si tu voyages beaucoup, bon là en ce moment c'est mort, voilà déjà, donc voilà. Mais pour les gens qui voyagent beaucoup, qui font beaucoup de photos, qui sont Instagrammeurs, qui font beaucoup de stories, qui font beaucoup de vidéos, même des réalisateurs, tu vois, qui font des cours, qui font des clips, qui font des gens qui travaillent dans la vidéo en général. Ça peut être un super truc. Et c'est ce qui m'intéresse de ce côté-là, de voir un peu ses performances. Même si je sais que je ne vais pas avoir les capacités personnelles d'en exploiter ne serait-ce que 50%, je pense. Mais il me fait vachement de l'œil pour ses propositions, en tout cas. Et j'espère peut-être voir ses propositions rebalancées dans un 13 normal dans un an et demi, si tu veux. Mais ouais, mon cœur balancerait entre le 12 mini, qui est quand même vachement bien, et le Pro Max. Le Pro Max, je ne l'achèterai pas. Je ne dépenserai pas plus de 1 500 € pour un téléphone, c'est mort. Oubliez ça. Ne changerai pas. Je pense que je vais garder mon XR jusqu'à l'iPhone 14 à peu près. Peut-être le 15.
Ça fait sens.
Normalement, je change tous les 2 ans. Avant, je changeais tous les 2 ans sous Android parce que j'avais plus de mise à jour. Et parce que le téléphone était dans un sale état au bout de 2 ans en général, parce que j'achetais des téléphones ils n'étaient pas extrêmement chers, on va dire le plus cher que j'ai payé était 400 €. Et j'ai pas pris de OnePlus parce que les OnePlus sont mieux servis de ce côté-là, même si au niveau des Snapdragon c'est pas ouf. Là je vais garder mon iPhone XR pendant un bon moment, quoi.
Si les annonces de cette keynote vous intéressent, il y a tout un épisode de Mac2 que j'ai réalisé avec Mathieu. C'est Mac2 numéro 18, une autoroute vers le Pro Max, où on en parle pendant à peu près 1 heure. Donc,
connaissant Mathieu, il veut un Pro Max.
Comment ça, veut ?
Ah putain, Mathieu, t'es vraiment qu'un faible. Je ne l'ai pas encore écouté, j'ai suivi la conf et tout, mais j'ai pas écouté l'épisode, donc je vais me moquer de Mathieu.
Je dis pas ça pour nous la péter, mais c'est vraiment un excellent épisode. Il y a vraiment la conversation et l'analyse dedans de tout l'événement. On parle également du HomePod mini et des autres iPhones. Vaut le coup. Là, je voulais juste de nouveau parler du 12 mini parce que, si tu veux, c'est un sentiment depuis la semaine de l'événement qui était la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines maintenant que vous qui l'écoutez. Vous qui l'écoutez le 26 octobre 2020, ça ne me quitte pas, si tu veux. Et honnêtement, ça n'a rien à voir avec la 5G qui était le truc qui était vraiment mis en avant par Apple.
Oui, c'est vrai que ça a été très, très mis en avant et c'est très osef pour l'instant, pour ma part. Mais...
Ouais. Et la 5G à ce stade pour l'année et probablement encore, peut-être pour 2021, peut-être
après,
encore pour 2022.
Après, c'est une cible de citadins occidentaux, principalement américains, et eux, ils ont déjà, dans certaines villes notamment... de la Bay Area.
Non mais nous aussi on a de la 5G, c'est pas le problème. Oui. C'est juste qu'il y en a pas partout et que elle offre pas là où elle est. Et à ce stade, on va dire dans l'implémentation des antennes et dans le rollout de la technologie, on n'est pas à un niveau où ça fait une différence incroyable par rapport à la 4G de une et de deux. désolé de servir un point des anti-5G, alors que je suis personnellement pas anti-5G comme certains peuvent l'être. Oui, pour nous, c'est pas très utile. C'est difficile de retourner le truc. Même moi qui suis un créateur de contenu, honnêtement, certes, je crée pas forcément le contenu qui demande le plus de bande passante, mais même j'ai de la peine à voir quels sont les usages indispensables que la 4G ne permettait pas, parce que la 4G permet quand même pas mal de choses, et aujourd'hui on a une couverture 4G qui est quand même pas mal, que la 5G permettra. Donc c'est pour ça que je reste extrêmement prudent sur le sujet de la 5G, Franck.
La 5G, l'avantage va être pour énormément de choses du quotidien, en fait, notamment au niveau du transfert de données, certes, mais c'est au niveau aussi de la... Ah, j'ai perdu mes mots, mais c'est au niveau du transfert de données d'un côté, et de l'autre, c'est au niveau de la stabilité offerte par la 5G pour plein de choses assez bêtes, en fait. Des relais 5G de contrôle de sécurité routière, ce genre de choses.
Ce que tu veux me dire, c'est que c'est mieux côté latence et c'est mieux côté stabilité.
Oui, voilà, et ça apporte de vrais avantages au niveau de la consommation. Ce qui est très bête, mais la 5G, les antennes 5G, même si les anti-5G racontent à peu près n'importe quoi, de là à ce que voilà, les puces de Bill Gates, machin.
Il y a beaucoup d'anti-5G dans la nature, il y a des gens qui sont complètement délirants, et puis il y a des gens où.
Beaucoup.
Tu n'as pas à être d'accord avec, mais tu peux reconnaître la cohérence.
Oui, exactement, Il y a des gens plus modérés. La 5G consommera moins aussi, parce que les antennes 4G actuelles ont besoin de beaucoup d'amplification pour certaines choses et pour des transferts et pour maintenir la bande passante. La 5G étant plus puissante de base et sur une autre gamme de fréquences, ça atteint, ça c'est mesuré scientifiquement, hein, c'est comme dirait un fasciste reconnu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans un livre, mon cerveau est très perturbé en ce moment par les gimmicks qu'on m'a instillé dans le cerveau très récemment. Mais de base, la 5G consomme moins, elle est beaucoup plus puissante, elle permet une couverture plus large sur certains systèmes, notamment les systèmes autoroutiers, les systèmes médicaux aussi. Parce que la 5G, c'est une grosse avancée pour les machines pilotées, pour la chirurgie notamment, qui te permet d'avoir justement pas de latence, beaucoup plus de précision. Une connectivité accrue, donc c'est quand même vachement bien.
Oui, mais là, encore une fois, tu parles d'usage assez pro, assez industrie, assez... Enfin, encore une fois, pour le commun des mortels...
Oui, mais pour avoir ces usages, il faut une couverture pour le commun des mortels en général, en fait.
Je suis d'accord, mais pour justifier quelqu'un d'aller payer un forfait 5G, là, encore une fois, moi, j'y vois pas l'intérêt dans l'immédiat du tout, et dans le futur à moyen terme.
On est d'accord, mais ce sont les FAI.
On n'a pas l'intérêt de payer très cher un truc qui ne sera pas très utile. Voilà, c'est juste ça.
Ah oui, non, mais on est totalement d'accord.
Et on répondra, c'est probablement la même chose avec l'iPhone 12 mini dont tu viens de parler, mais oui.
Oui, c'est pas faux d'ailleurs. Ils sont au frag. Mais
et la réponse, c'est oui, 5G. Non, mais je reconnais mes propres biais, ça m'intéresse.
Il n'y a pas de souci.
Petit téléphone est joli, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Après, tu présentes un problème qui est l'intérêt de payer un forfait 5G. On est d'accord, la 5G est pas... Je parle pour la France, notamment pour la France en général. La 5G est pas du tout implantée et implémentée proprement encore en France. C'est le début, ça arrive petit à petit. Les forfaits 5G vont être déjà là prochainement. Il y en a déjà qui sont disponibles et d'autres vont arriver. C'est évidemment un coup des FAI qui veulent te vendre un service que tu ne paieras pas à sa puissance maximale.
Ça a été la même chose
avec la 4G.
Évidemment, la gamme de prix, elle, est beaucoup plus discutable. Mais le fait qu'ils veulent lancer les forfaits, ça peut se comprendre parce qu'ils, littéralement, ils lancent un investissement pour mettre en place cette couverture.
Et encore.
C'est-à-dire qu'ils achètent les fréquences et ensuite ils mettent en place le truc. Donc,
les fréquences, elles sont achetées, enfin elles sont, données souvent, mais j'ai envie de te dire, c'est un bon moyen de faire de l'argent et de pouvoir réclamer de l'argent.
Je veux pas dire de bêtises, mais c'est bien un marché public qui est confié à des privés sur présentation de dossiers, etc. On est d'accord. En France.
Alors c'est une attribution de fréquence, non, parce que c'est une attribution de fréquence par opérateur, c'est un peu plus complexe que ça.
Mais ils payent les opérateurs.
Il y a des frais à payer, mais ils sont. Oui et non, ça dépend des trucs.
Bon, ok.
Ils sont obligés de payer pour leurs installations 4G, ce genre de choses, mais les fréquences, normalement, elles sont attribuées au général. Et après, elles se mettent en liste, comme ce sont les trucs principaux, ils ont la priorité pour des fréquences, ce genre de choses.
Renseignons-nous.
Un peu comme pour les chaînes de télé qui... On refera un tour dessus, oui.
C'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est renseignons-nous, faisons un dossier un jour sur le sujet avec un invité. Ce sera intéressant, je pense, d'en parler, notamment de la couverture en France. Il y aura pas mal de choses à dire. Et est-ce que la 5G peut permettre, c'est la promesse notamment gouvernementale sur ce sujet, de résorber la fracture numérique? C'est une question qui se pose. Et faire un épisode sur la 5G et ses usages, y compris la légitimité, mais la justification qu'on peut avoir d'en prendre un forfait quand on est personne lambda aujourd'hui et demain, ça va être des questions importantes à évoquer. En attendant, on va évoquer une autre question intéressante et qui m'intéresse moi pour le coup au plus haut point. Mon cher Franck, tu vas nous parler de Twitch et tu vas nous parler du DMCA, donc du Digital Millennium Copyright Act, si je dis pas de bêtises, qui est le petit procédé légal, la petite disposition légale américaine qui permet aux ayants droit de demander « Tiens, retire ce contenu d'Internet car il ne t'appartient pas, tu utilises quelque chose qui n'est pas à toi. »
Oui, et ça a été un immense drama depuis la semaine dernière, puisque des centaines de milliers, je dis bien des centaines de milliers de streamers ont reçu, donc en début de semaine, un mail de la part de Twitch leur disant qu'ils avaient contrevenu aux lois sur le copyright et donc ils ont pris un DMCA dans la tronche. Donc, pourquoi ? Twitch, au lieu de permettre de demander une analyse ou de défendre ses droits en contestant ce retrait, Twitch n'a pas donné le droit à l'analyse ou à la défense des droits. Ils ont directement effacé les contenus qu'ils suspectaient, sans aucune possibilité de défense derrière. Mmh. Et ils ont envoyé un mail groupé avec un avertissement, donc un strike, tu veux, tu as un droit à un avertissement, pour chaque compte qui a reçu ce mail de DMCA. Mmh. Donc, comme tu le disais, le Digital Millennium Copyright Act est une loi qui régit ces contenus et qui statue que si la plateforme d'hébergement, donc Twitch, YouTube, Twitter, toutes les plateformes d'hébergement, Facebook et le reste sont des plateformes d'hébergement, elles ne sont pas responsables du contenu, mais si la plateforme ne supprime pas les contenus qui sont rapportés pour DMCA, ils peuvent avoir un procès. Mmh. Mais si la plateforme supprime ces contenus contrevenant à la loi après une annonce, c'est-à-dire elle reçoit une notification de « vous devez retirer tel ou tel contenu » et qu'elle le retire, elle évite les poursuites en justice.
Oui.
Mais, il y a un mais, il y a un gros mais. C'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois, notamment depuis les confinements sur Twitch. Certains musiciens et créateurs de contenu ont été strikés pour leur propre création. Pour des musiques leur appartenant déjà, mais même des musiques libres de droit pour faire leur boulot. Notamment, ce dont je vous avais parlé récemment, StreamBeats, qui est donc une bibliothèque de musique totalement légale, vous aurez le lien dans la page émission aussi, qui est une bibliothèque de musique créée donc par l'entreprise StreamBeats, qui appartient donc au streamer youtubeur Harris Heller, qui s'appelle sur YouTube Alpha Gaming. Donc Heller, il a créé cette entreprise pour produire de la musique totalement libre de droit, afin que les créateurs de contenu vidéo audio puissent habiller leur contenu légalement sans prendre de strike, que ce soit sur YouTube, sur Twitch et même en podcast. Il y a eu des strikes sur des morceaux aussi. Il y a eu des strikes, pour le coup. Il y a certains streamers qui disent qu'ils utilisent StreamBeats et qu'ils ont pris un strike, ce qui est techniquement légalement impossible, donc ça pourrait s'apparenter à du patent trolling. Mais étant donné que les vidéos supprimées ne sont plus sur Twitch, si la personne n'a pas la vidéo incriminée dans ses archives, elle n'a pas de preuves. Pour ceux qui sont inquiets de StreamBeats et des musiques libres de droit, il y a une licence légale en papier froid et glacé. Vous pouvez télécharger directement sur le site, qui te donne toutes les règles et qui te dit que voilà, tu es officiellement licencié à titre gratuit, que tu ne dois pas payer d'argent si tu utilises pour quelque soit le truc. Il parle même de podcast. Pour le coup, c'est très bien. Yann, tu voulais dire quelque chose ?
Non,
une réaction.
Ça illustre quelque chose, je pense, que tu traiteras ensuite, mais je tiens à le dire maintenant. Ça illustre que dans ce genre de problème, la loi n'est pas nécessairement ce qui fait foi et ce qui va, en tant que notamment que créateur, s'appliquer à toi. Ce qui va s'appliquer à toi, c'est la légitimité, appuyée ou non par la loi, d'ayant droit ou de groupements de gestion collective de droits qui ont simplement un gros flingue, qui ont simplement un outil pour pouvoir retirer ton contenu ou pour pouvoir striker ton compte, ce genre de choses, sans que tu puisses avoir un recours, on va dire, équitable, sans pouvoir avoir...
Oui, c'est le principe de la justice, normalement. Tu dois avoir le droit de te défendre.
Oui, alors, dans ces circonstances-là aussi, la justice, et je parle en tout cas pour les pays que je connais, notamment la France, notamment la Suisse, dès lors que tu fais face à... Dès lors que tu fais face à une structure qui est beaucoup plus large que toi en tant que simple individu, c'est clairement une bataille inégale.
C'est ça, mais le problème est que, et c'est ce que je voulais souligner, c'est que la Hadopi était une structure dépendante de l'État, qui pouvait mener, qui avait le pouvoir de rendre justiciable.
Techniquement, c'est une auto-autorité, donc oui, c'est les fonds publics, mais c'est censé être un peu plus détaché.
Oui, non, mais c'était lié, quoi qu'il arrive, à l'autorité de l'État et à l'autorité de la justice. Le cas de Twitch, ce sont des algorithmes, des crawlers, qui vont scanner les contenus et qui vont automatiquement décider que quelque chose leur appartient. C'est le cas du patent trolling sur YouTube, notamment du content claim frauduleux qui a été un cancer depuis 10 ans, où des boîtes se montent qui sont totalement inexistantes et qui... décide à la sortie de ta vidéo que c'est leur vidéo, ils font un content claim, ils prennent l'argent pendant 2-3 jours, qui est le pic de monétisation pour une vidéo quand elle sort.
Si la vidéo vient de sortir, oui, voilà.
Voilà. Et tu contestes, mais le temps que tu contestes, ça prend des fois une semaine, parce que YouTube, voilà, c'est ce qui est. C'est pareil pour les autres. Hein. Tu contestes, ça prend des jours, la monétisation continue d'affluer, ou alors ta vidéo, elle est bloquée. Mais le temps que l'argent qui est perdu, il reste dans la boîte qui a fait ce claim frauduleux.
Ouais. Quitte à parce parfois,
c'est quand même
ce
une réclamation
même pas,
frauduleuse.
Quitte à ce que ce soit parfois même pas le véritable ayant droit qui récolte l'argent à la fin. D'ailleurs.
Ah, mais c'est ce que je veux dire. Quand je dis frauduleux, c'est que c'est même pas le véritable ayant droit. Moi, j'ai eu des content claims à l'époque où on faisait beaucoup de vidéos sur AOG. J'ai eu des content claims sur des vidéos qu'on avait faites et que Chou avait faites avec sa Minute AOG, qui était un mini-programme où il a fait 2 épisodes. J'ai eu un content claim sur le premier d'une boîte allemande qui disait que la voix off, appartenait à telle entreprise. Sauf que le mec, c'est mon pote, on bosse ensemble depuis 10 ans. Je sais très bien qu'il bossait pas pour cette boîte-là. Qui était une boîte, en fait, quand tu regardais qui était cette boîte, c'était un truc de salle de sport.
C'est étrange, effectivement.
Non, mais sérieux, j'en ai eu plein comme ça. Le problème, c'est que la monétisation de la vidéo, bon, elle a pas eu énormément de vues. Nous, ça nous a pas impacté parce que le principe était pas de faire de l'argent. Les monétisations étaient actives en espérant avoir quelque chose, si tu
mais
veux.
Mais le geste est malgré tout grossier.
On a eu des vidéos... Oui, mais j'ai passé des semaines à enlever des content claims. J'ai même eu un content claim de Sony qui demandait la fermeture de ma chaîne pour avoir posté à l'époque les trailers envoyés par Jérôme, donc le RP Sony, et Zach, qui est toujours community manager pour Sony, Julien Bourré, qui m'avait envoyé les trailers de la PS Vita. Donc tous les trailers de lancement, les annonces publicitaires de PS Vita, posté les trailers de jeux PS Vita et tout, j'ai posté, je sais plus, 12 trailers en 2 jours. J'ai eu un content claim général de Sony qui demandait à YouTube la fermeture de ma chaîne. J'ai passé 3 semaines à me battre. Non mais j'ai passé 3 semaines à me battre et j'ai eu des échanges à l'époque avec Julien et Jérôme pour qu'ils me disent juste, vous pouvez juste me dire par mail, je remets une copie parce que j'ai pas envie qu'ils me ferment ma chaîne.
Bien sûr.
Il a fallu que les mecs prennent le temps de me répondre. C'est déjà très gentil à eux, mais parce que quand t'es un blogueur indépendant, tu vois ce genre de truc, ils ont autre chose à foutre, clairement. Et Zach qui m'a dit non, mais c'est débile. Et j'ai bataillé 3 semaines. Les trailers, je les ai laissés juste pour faire chier au final.
Et là, ton
j'aurais
problème,
pu les supprimer.
Ton problème, il a quasiment 10 ans en plus. Enfin, c'est la preuve que ça, c'est quelque chose qui est
ça ne fonctionne pas
depuis très longtemps qu'il l'était sur YouTube. Et en fait, ce qui fait scandale maintenant, c'est que ça arrive sur Twitch.
Oui, en fait, c'est les algorithmes. Et ce cas de figure, le cas de figure ici présent, il est étrange, mais pas totalement en fait. Certaines boîtes spécialisées en récupération de droits et en strike, comme la RIA, donc la Recording Industry Association of America, qui est la SACEM, notre SACEM, qui est leur SACEM en pire, en fait, en plus gros et en pire, ils veulent toute la stream money du père Bezos. Et c'est l'heure du suivi du courrier.
Oui.
Yann, c'est à toi, tu vas nous parler d'Apple Podcast et des avis sur Apple Podcast.
Ah bah oui, que c'est devenu une tradition, on en prend un et c'est celui de November qui nous dit « J'aime énormément ce podcast, ils sont sympathiques et efficaces, ils répondent aux questions et leurs dossiers sont concrets et solides, excellent podcast », nous dit November, qui nous vient de Suisse, hein, n'est-ce pas ? C'est très gentil à lui, et qui a titré son commentaire « Super, 5 sur 5, c'est incroyable, merci November ».
Merci November, c'est très gentil.
Un petit peu de suivi pour continuer et je vais prendre, si tu le veux bien, Franck, le bâton de parole sur ce coup-là parce que je n'ai plus de problème avec mon proco, avec le processus AccountsD.
Eh oui.
Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai suivi un petit peu le conseil du compte Apple Support sur Twitter qui m'avait dit « Ah, essaye de désactiver des trucs dans iCloud ». Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que peu avant que le problème se déclare, j'avais importé beaucoup de documents dans iCloud à travers un programme qui s'appelle Keepit, qui n'est pas un programme créé par Apple, mais qui est un programme qui utilise iCloud pour stocker des documents. Et en l'occurrence, Keepit, c'est un programme qui permet de stocker toute une librairie de PDF pour qu'ils soient recherchables, voire même en plus d'images, de sons, etc. Mais c'est vraiment très puissant, très pratique si on met des PDF dedans, des documents Word, PDF, texte, etc. pour pouvoir les rechercher, les mettre en relation, les ranger dans des catégories dynamiques, les ranger dans des catégories de catégories, changer les catégories ensemble, etc. etc. Et j'avais importé l'équivalent de 6 ans d'études et donc de lecture académique dedans. Et visiblement, et j'en étais pas satisfait pour une certaine raison, j'ai supprimé le truc. Et en fait, visiblement, c'est après avoir supprimé tous ces documents-là que j'avais importés assez rapidement que iCloud avait quelques problèmes sur mon Mac Mini, déconné à mort, et simplement en décochant et en recochant iCloud Drive dans les paramètres iCloud sur les paramètres généraux de mon Mac, j'ai réussi à régler le problème et je ne l'ai plus eu depuis. Donc... est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une pure coïncidence ? Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, ça a marché pour moi. Donc si vous faites face au même problème, réfléchissez un petit peu à quelque chose de concret que vous auriez fait avec iCloud, de différent d'habitude, que vous auriez fait juste avant que le problème se déclare, et tentez de désactiver, réactiver, on va dire, la partie d'iCloud qui est concernée par ça, voire à désactiver tous les services iCloud de votre Mac, puis ensuite à les réactiver. C'est pas hyper pratique dans le sens où il va faire une backup du coup dans un coin parce que vous allez lui dire « Ah, supprime tout !» et puis retélécharge tout depuis le serveur. C'est pas forcément le plus agréable au monde, mais en tout cas pour moi, ça a fonctionné. Donc c'était probablement à cause de mon import bourrin via Keepit et j'avais pas fait le lien. Voilà. C'est aussi bête que ça.
Déjà, c'est des angoisses en moins déjà.
J'ai un Mac à 2000 balles qui marche. C'est bien. Gumpy qui nous écrit, qui nous dit « Coucou les loulous, la fibre ayant enfin rejoint le domicile familial, Wing Fox, j'ai commencé...
Et peut-être que le prochain épisode de Tech2 dans 15 jours, je serai avec la fibre.
J'ai commencé à vouloir un peu jouer avec le réseau Wi-Fi bien explosé par des murs dignes d'une maison du siècle dernier. Un étage plus un mur porteur suffisant à annihiler les débits. Un répéteur 2,4 GHz bien placé me permet de revenir à 40 Mbps à l'étage, presque 10 fois moins que le débit maximum obtenu par Ethernet. Constat face à la box, 300 Mbps en 5 GHz et 70 en 2,4 GHz. Bref, si la seule fréquence que je peux avoir à l'étage est si bridée, je me dis « Hey, Bouygues, donne une box de merde quand même !» Achat d'un bundle répétiteur RE200 et routeur AC1750, tous deux dual bundle chez TP-Link avec Tech One Mesh. Surprise ! Débit identique face au routeur. Pire, malgré ses antennes extérieures assez grandes, l'atténuation de ce routeur est plus importante de 2 à 3 dB. Clou dans le colis retour, OneMesh pète complètement les débits comparés à une simple répétition. Je croyais innocemment que le 2,4 GHz était vendu pour 450 Mbps. Essayez d'utiliser une bande plus large, 20 ou 40 MHz, n'apporte rien. Comme sur la B-Box, plus d'investigations plus tard, je vois que les reviewers avec de sympas tableaux comparatifs montrent de grands taux maximum autour de 80-90 Mbps sur cette fréquence. Est-ce vraiment le maximum pratique ? Le remplacement de mon ex répétiteur par un modèle dual band, par contre, m'apporte un petit boost avec l'accès à la bande 5 GHz pour l'étage, me donnant 90 Mbps contre 35 en 2,4 GHz. À votre avis, est-ce que Bouygues aurait le respect d'envoyer une box plus que respectable ou un routeur TP-Link bof bof ? Un autre setup aurait-il été potentiellement plus efficace avec de vrais mécheurs par exemple ? Bien à vous et plein de télé-coucou Gumpy.
Ah, c'est gentil. C'est un très gentil message.
C'était
un
une salade message. De chiffres, je tiens à le dire.
Ouais, non, mais c'est... Oui, quand je l'ai lu en préparant, j'ai fait « Oh, toi, mon cochon !» Alors, j'ai beaucoup à dire, je vais faire très simple, parce que l'émission a déjà été très longue. Déjà, de base, est-ce que Bouygues pourrait avoir le respect d'envoyer une box plus que respectable ou un routeur TP-Link ? Alors, le truc, c'est que ce sont des FAI, donc des fournisseurs d'accès Internet, ils gèrent des millions de box. Le problème, c'est qu'une box, tu vois, une bonne box, ça coûte la peau des rouleaux. Ça coûte 100 balles, 150 balles, 200 balles, en fonction de ce que tu veux faire et de ce que tu veux mettre dedans, ça coûte cher. Ils ont des coûts. Et ce coût, toi, tu payes dans la location de ta box, qui est compris en général dans ton forfait ou qui est rajouté selon les opérateurs, selon les pays aussi. Ça peut être 5 € de location de box mensuelle, par exemple. 5 € sur 10 mois, ça fait 50 balles. Sur 12 mois, ça fait 60. Sur 3 ans, ça fait 180 balles. 180 balles, c'est à peine le prix de rentabilisation de ta box. En général. Parce que ça leur coûte. Ils font du bénéf dessus, faut pas rêver. Mais c'est le prix d'une bonne box. À peu près d'un bon routeur. Donc, il leur faut à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, pour faire du bénéf sur ces box-là. Ils changent de box à peu près chez les opérateurs tous les 2-3 ans. Si tu en fais la demande. On regarde chez Free, par exemple, tous les 2-3 ans, il y a de nouvelles Freebox. Pareil chez SFR, pareil chez Orange, des Livebox différentes et tout ça. C'est un coût qui doit être en roulement pour appâter le nouveau client, évidemment, et te refaire payer un nouveau forfait téléphonique et te réengager. Mais le problème, c'est que ce sont des machines qui sont standardisées avec l'OS de l'opérateur, qui est parfois le firmware de la box d'opérateur, est parfois compliqué à gérer, voire totalement merdique, selon les opérateurs, on le sait. Donc du coup, mettre une box avec ta location, non, ça, ils vont pas le faire. Ensuite, l'autre problème que je vois, c'est que tu as des gros murs, tu as des gros os, ils sont solides dans ta maison, c'est que tu as de la fibre. Donc pourquoi t'emmerder avec du Wi-Fi à l'étage alors que tu pourrais vérifier un petit peu si ton électricité est relativement en bon état, regarder ce que tu peux avoir comme débit avec des CPL. Parce que le Wi-Fi, c'est cool, mais le Wi-Fi, t'as énormément de déperdition. Et même avec un répéteur, ça peut être relou. Alors que si tu mets un CPL, donc qui est une prise électrique que tu branches sur ton mur, tu branches ta box par-dessus, tu mets ton Ethernet dans le CPL... Et tu balances l'énergie, donc la puissance de l'Internet, à travers tes câbles électriques. Donc, tu vas pouvoir avoir des débits qui sont relativement... Oui, qui vont être plus hauts, en fait, que les 80-90 mégas. Ça va évidemment se limiter au bout d'un moment, mais du coup, ce que tu fais, c'est que tu passes le CPL de ta box à l'étage, à travers le gros mur de béton par le système électrique. Tu mets ton CPL, tu arrives à l'étage, et à l'étage, une fois que tu es à l'étage... Tu mets un petit routeur Wi-Fi ou ton boîtier CPL, avec ton boîtier CPL qui est relié par exemple à un routeur Wi-Fi ou un répéteur Wi-Fi qui va rebalancer ce signal plus puissant à l'étage et donc le distribuer plus équitablement à l'étage sans la perte que tu as eue de haut en bas. Évidemment, si tu as de la fibre, tu disais, constat face à la box, tu es à 300 mégas en 5 GHz, 70 en 2 giga 4. Le 5 giga passe mieux que le 2 giga 4 à travers les gros murs, on est d'accord. Tu as la fibre, tu dois avoir beaucoup plus. Avec le CPL, tu devrais peut-être avoir du 450, voire du 500. Si tu as de la fibre en giga, tu devrais au moins, normalement, électricité, je crois que tu vas bloquer à 600, maximum 480-600. Donc, tu auras plus. Et ensuite, tu mets un répéteur Wi-Fi en haut et tu as du Wi-Fi en haut avec une meilleure bande passante. Et là, tu peux laisser le Wi-Fi en 5 giga en haut si tu n'as pas... T'as pas 36 millions de murs porteurs. Et oublie pas aussi, très important, la tuyauterie dans les murs. Si t'as des murs en pierre avec de la tuyauterie en métal, c'est double combo dans tes murs pour avoir des emmerdements et de la perte de réseau. Après, la dernière solution qui te reste, mon cher Gumpy, c'est de tirer une goulotte de fibre, soit par l'extérieur de la maison, si t'es dans une maison et que t'as un boîtier à l'extérieur de la maison, tu tires un câble, tu peux le faire tirer par ton opérateur, ou tu peux le faire toi-même, ou tu peux faire appel à quelqu'un de qualifié, un professionnel indépendant, qui va te tirer depuis le boîtier qui est soit dans ton garage, soit à l'extérieur de la maison, ça dépend des configurations et des maisons, évidemment. Tirer un câble, une fibre, tout simplement, depuis ton boîtier, le tirer soit dans les plinthes, soit avec une goulotte, machin, avec un trou qui va monter à l'étage, tu fais un trou dans le plafond, en suivant la tuyauterie, par exemple. Tu suis la tuyauterie, tu tires la fibre, tu cales un boîtier fibre et tu mets soit un répéteur, soit tu mets un autre petit routeur, genre un TP-Link, qui te permet de récupérer là directement depuis le canal principal de la fibre ton réseau pour les tâches.
Très bien. Bah, merci pour cette réponse, Franck. On passe au mail de Sacha qui nous dit bonjour, bonsoir, vous deux. Alors plutôt bonjour, même si honnêtement le soleil se couche de plus en plus tôt ces derniers temps.
Il sait pas quand est-ce qu'on enregistre.
C'est vrai. Bah, l'après-midi. Deux heures de l'après-midi, le vendredi. Après-midi. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous demander si vous auriez une solution à un problème extrêmement précis. Je voudrais savoir si vous connaissez une app, un site, une extension Google Doc, que sais-je, qui permettrait d'établir un système de date de péremption d'un message en fonction de ses réponses. Je m'explique. Par exemple, je fais la proposition d'aller voir un film en particulier dans un salon de discussion ou un document. J'établis que le message reste visible 12 heures et si personne ne s'est tagué au-dessus comme voulant participer, le message s'efface. Bon. L'exemple n'est pas bien vu, s'étant peu recommandé pour sociabiliser, mais vous voyez le principe, j'espère. Voilà, donc ça, c'est la question de Sacha. On en a discuté un peu avant d'enregistrer.
Oui, et c'est un besoin particulier, en fait.
En fait, spontanément, j'ai rien qui me vient de service vraiment bien fichu pour ça. La meilleure solution, à mon sens, c'est de le faire de manière toute bête en disant « ce message-là est valable jusqu'à tel jour, telle heure, ensuite zut ». C'est littéralement de l'écrire, en fait, à côté de ton message, en disant, de manière caricaturale, « cette offre est disponible jusqu'à mercredi 13h, au-delà de ça, c'est plus possible ». C'est comme ça que je ferais, en tout cas.
J'ai essayé de réfléchir. Après, ça dépend ce que tu utilises. Si tu utilises des mails ou des boards de discussion, enfin, ça, selon le format, selon l'endroit, ça va différer.
Si tu es sur un forum, par exemple, tu peux dire quand ce post aura 3 heures, ou ce post aura 12 heures, ou ce post aura un jour,
oui, tu peux le
ce
locker.
Sera plus valable, par exemple.
Voilà, tu peux carrément locker si tu es sur un forum, genre Discourse, ce genre de choses.
Suivant les systèmes, il y a possibilité.
Voilà, tu peux faire si tu as un forum privé, par exemple, avec Discourse, tu peux mettre un message et de dire voilà, ce message sera locké dans 12 heures, et le message, tu dis que dans 12 heures, il est locké, quoi. Mais après, pour les apps, c'est compliqué, quoi. Il y a Snapchat qui permet des trucs un peu similaires où le message disparaît après un certain temps. Mais je ne l'utilise en plus depuis de nombreuses années parce que je trouve pas ça ouf. Je sais pas combien de temps maximum tu peux planifier un message pour exister, quoi.
Oui, puis le problème, le système de story, si c'est pas vraiment, si 12 heures est une durée arbitraire et que c'est pas grave si c'est un jour disponible là-dessus, bah avoir un compte Instagram qui publie ce genre de choses peut être utile si tout le monde va aller checker les stories, par exemple. Ça, c'est
checker,
une possibilité.
Mais il faut checker les stories.
Oui, c'est pas, suivant le groupe d'amis, c'est pas forcément inimaginable. Donc tout dépend un petit peu de quel groupe social on parle et quel besoin il y a derrière, au-delà simplement de dire voilà, 12 heures, allons voir un film, ce genre de choses. Donc, mais tout bêtement, moi je le mettrais dans le message. Vraiment aussi bête que ça. C'est-à-dire, c'est plus une question de communication et de fixer les limites auprès du groupe social avec lequel tu interagis.
Oui. Sinon, il reste la solution. C'est très basique et c'est peut-être un peu froid, mais comme on en a discuté en off avec Yann, c'est Doodle. Tu fais un Doodle, garçon.
Oui, c'est possible aussi. Si personne ne le remplit, personne ne le remplit. C'est une possibilité.
Voilà, tu fais un Doodle.
Donc, je crois
et
que tu peux définir une date limite.
Tu définis une date limite pour les votes et pour que les gens se mettent dessus. Tu définis des adresses mail à qui c'est envoyé, donc tout le monde le reçoit par mail. Avec l'invitation à répondre au Doodle avec un titre et machin, tu dis voilà, par exemple, séance de ciné à 16h au hall, par exemple, premier truc qui me vient, mais séance de ciné au hall, tu envoies le Doodle, ils reçoivent par mail. Chacun inscrit son nom et tu marques si vous voulez, s'ils peuvent être là à 15h, ils peuvent être là à 15h. Certains peuvent être là à 18h. Tu choisis les horaires auxquels ils peuvent être là. Je suis fatigué, moi aussi. Tu choisis les heures auxquelles ils peuvent être là et puis ils marquent. Voilà, tu peux être là à 15h, à 14h, à 16h, à 18h. Tout le monde marque les horaires qui leur conviennent. Derrière, tu dis est-ce que vous voulez, est-ce qu'on y va à deux, à trois, à plusieurs, machin, chacun marque. Et t'as un doodle, mais c'est un peu plus froid, c'est un peu moins humain. Sinon, il reste la période de envoyer un SMS de masse dans un groupe chat, par exemple. Tu crées un groupe chat rendez-vous ciné et tu dis voilà, rendez-vous ciné sur Telegram ou Signal, par exemple.
Et puis
ou
les
WhatsApp.
Gens quittent, ils sont pas intéressés.
Voilà, et tu leur dis voilà, les mecs, ça vous dit, les gens, ça vous dit un ciné ou un resto ou qu'on fasse un truc X date à X heure. Tu dis le groupe chat il est ouvert pour cette occasion là, c'est fait et puis tu le fermes après.
Non, tout à fait, je pense que c'est une bonne solution. Ça fonctionnerait bien aussi.
C'est le mieux que je puisse faire, en tout cas.
Lucas, enfin, demande une référence pour un PC fixe pour faire principalement de la bureautique, des mails, de la conférence vidéo. Il aimerait savoir ce qu'on recommande pour un budget de moins de 500 €. Il cherche pas une bête de performance vu qu'il ne ferait jamais du jeu vidéo dessus, mais surtout le meilleur rapport qualité-prix. Je suis un peu perdu dans toutes les références déjà existantes. Pardon, Franck, lui demandes de te contacter.
Oui, alors deux choses, mon bon Lucas. Est-ce qu'il te faut... Tu veux un PC fixe, donc un PC fixe, je t'invite à m'envoyer un mail, franck@blueprint.pm ou @foxmonsieur, DM ouvert sur Twitter.
Yes.
Mes DM sont ouverts. On va regarder ça. Je ne te conseillerai pas, comme je ne conseillerais pas à nos auditeurs, d'acheter des PC tout montés pour faire de la bureautique. Les PC qu'on trouve en supermarché, qu'on peut trouver chez Darty, Conforama, Amazon, n'importe où. Les trucs qui sont tout montés sont des PC qui valent 500, qui sont vendus 500 € mais qui valent beaucoup moins. Pour 500 €, tu peux avoir une machine de travail relativement petite, avec peu de consommation et des bons résultats pour travailler pour longtemps, en fait. Donc, tu viens me voir, on va s'en occuper. Ça prendra pas beaucoup de temps.
Très bien. Eh ben, merci à toi pour cette générosité, toujours au service de nos auditeurs. Tu as donné tes références donc, pour te contacter sur Twitter ou par mail. Si vous voulez écrire à l'émission et faire partie de cette dernière séquence de Tech2, c'est Tech2BP sur Twitter ou tech2@blueprint.pm.
Et c'est désormais la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tech2, c'est une émission produite et réalisée par Blueprint. Merci à Julien Bro pour le logo et Benji Pesk pour l'habillage sonore. Pour retrouver Yann sur Twitter, c'est @inkshd.
Je vous embrasse.
Et oui, moi aussi je t'embrasse, mon Yann. Pour me retrouver sur les internets, ça se passe sur @foxmonsieur. C'est foxmonsieur. Évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à parler de Tech2 autour de vous, à nous noter sur vos apps et plateformes préférées et à partager le podcast à vos amis. On se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Not really a bossa nova, but we think that you will dig this.